La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Hemingway avait l'habitude d'aller à l'essentiel dans son écriture, dont la limpidité cache une très forte densité, et notamment dans ses dialogues, à l'essentiel aussi dans les sujets qu'il décidait d'aborder, et qu'on pourrait résumer par le triptyque, le destin, l'amour, la mort. Journaliste, romancier, nouvelliste, aventurier, il était aussi un dur à cuire, parfois violent, à la virilité montée en étendard, comme nous allons le voir ici jusqu'à jeudi. Jeudi où il sera question des conditions de vie d'Hemingway dans le Paris des années 20 et de son rapport avec Francis Scott Fitzgerald, ce sera avec Jean Bessière. La veille, mercredi, nous aurons parlé de son style au travers de deux romans en particulier, Le soleil se lève aussi et Le vieil homme et la mer. Enfin demain, c'est la question de la limite sans cesse testée et sans cesse repoussée chez lui dont nous parlera Redouane Aboudaad. Et aujourd'hui ? Bien aujourd'hui, pour présenter la vie, les goûts et la personnalité d'Hemingway, nous sommes avec Gérard de Cortanze, directeur de la collection Folio Biographie chez Gallimard, mais également romancier, essayiste. Il a écrit sur Paul Auster, Georges Samprin, Philippe Solerst, Le Clésio, et donc aussi sur Hemingway dans son livre Le roman de Hemingway, publié en 2011 aux éditions du Rocher. Un livre, plus qu'une biographie, qui est aussi un abécédaire, doublé d'une chronologie, de la vie donc du grand écrivain américain, prix Nobel de littérature en 1954, et on écoute pour commencer un extrait de son discours de réception du prestigieux prix.
Writing at its best is a lonely life. Organizations for writers palliate the writer's loneliness, but I doubt if they improve his writing. He grows in public stature as he sheds his loneliness, and often his work deteriorates.
La vie d'un écrivain, en mettant les choses au mieux, est une vie solitaire. Les groupements d'écrivains pallient la solitude, mais je doute qu'ils améliorent son style. Son importance grandit aux yeux du public lorsqu'il renonce à sa solitude, mais souvent, son œuvre en souffre, car il œuvre dans la solitude. Et s'il est assez bon écrivain pour cela, il doit chaque jour affronter l'éternité ou son absence. Chacun de ses livres devrait être, pour un véritable écrivain, un nouveau commencement, un départ, une fois de plus, vers quelque chose qui est hors d'atteinte. Il devrait toujours essayer de faire quelque chose qui n'a jamais encore été fait, ou que d'autres ont essayé de faire, mais en vain. Alors, quelquefois, avec beaucoup de chance, il réussira.
Bonjour Gérard de Cortanze.
Bonjour.
Vous pensez comme Hemingway que la vie d'un écrivain, c'est une vie solitaire ?
Ah oui, mais à chaque fois que je l'entends, pour moi, c'est le plus grand écrivain. Je sais pas, c'est un frère, Hemingway.
Le plus grand écrivain.
Ah oui, oui, c'est je le relis. Et vous savez, quand il a eu le prix Nobel, c'est ça qu'on fait référence, on lui a annoncé par téléphone, et il est allé réveiller sa femme. Il lui a dit « Chérie, ça y est, j'ai le machin. » Et il a déposé après sa médaille, en fait. Il l'a offerte aux marins de Santiago de Cuba.
Qu'est-ce qui fait de lui le plus grand écrivain pour vous ?
Il le dit d'ailleurs, la littérature est une chose sérieuse. Il dit « La littérature, c'est un sacerdoce ». Et vraiment, c'est quelqu'un, quand on voit ces manuscrits qui retravaillent en permanence. Et j'aime beaucoup cette citation qu'il fait souvent, c'est une référence à Kipling. Et Kipling dit aux écrivains, c'est un conseil aux écrivains, procurez-vous vos faits et déformez-les. Et je trouve qu'il y a tout Hemingway là-dedans, on en parlera sans doute par la suite, mais tout son travail, par exemple, de journaliste, de correspondant de guerre, mais enfin de journaliste au sens premier, il va l'utiliser, ses voyages, il va les utiliser pour écrire. Et il va en permanence transformer cette réalité. Il va d'abord se confronter à cette réalité, il va la transformer, il va en faire un objet littéraire. Et c'est absolument passionnant de mettre en parallèle certains de ses articles et de voir à quelques mots près, à quelques lignes près, ce qu'il va en faire dans la fiction. Et là, on a vraiment tout, on a tout Hemingway qui prenait vraiment la littérature tellement, tellement au sérieux. D'ailleurs, il le dit souvent, vous savez, qu'on s'intéresse d'abord à ma littérature, qu'on s'intéresse à mon style. Et pas à ma vie et à mes excès. Ça n'a aucune importance.
Justement, il prenait la littérature très au sérieux, mais faire de la littérature, produire de la littérature, c'était quand même une souffrance pour lui. C'est un peu ce qu'on entendait d'ailleurs dans ce qu'il disait dans le discours du Nobel, c'est la solitude de l'écrivain. Peut-être que ça s'applique à tous les écrivains, mais ça s'applique en priorité à lui.
Oui, oui, c'est quelqu'un de brisé, d'abîmé. Enfin, vous savez, il y a des écrivains qui écrivent dans la joie, dans le plaisir, dans la facilité.
Est-ce qu'il y en a beaucoup?
Je crois quand même, si. Ça, j'espère pour eux. Et il y en a d'autres qui écrivent vraiment dans la douleur. Et Hemingway est quelqu'un qui a du mal à écrire, qui a des passages à vide, qui a des moments entiers où il n'écrit plus. Les derniers mois de sa vie, lorsqu'il reprend le manuscrit de Paris est une fête, il le témoigne, il le dit, il passe des journées entières le nez sur son manuscrit et il ne trouve rien. Il sait pas comment le prolonger, il sait pas comment le travailler. Il jette ses feuilles dans la pièce et il boit. Enfin voilà, c'est quelqu'un de décorché, d'abîmé. Et tout ça vient, on en parlera là encore pour la suite, ça vient sans doute de son enfance, de son rapport à la mort, de tout ça. Et puis de cette difficulté qu'il a en permanence, comment dire. Il est reconnu très très vite, Hemingway. Et lorsqu'il va à Cuba pour être tranquille, il n'est jamais tranquille. On vient toujours lui casser les pieds. Et c'est pour ça qu'il voyage. Il va partir en Espagne, il va partir en Afrique pour pouvoir écrire. Parce que même il quitte les États-Unis, il quitte la France, il quitte l'Espagne pour aller à Cuba en se disant « je vais être tranquille, je vais pouvoir écrire ». Eh bien non, il n'est pas tranquille, il ne peut pas écrire.
Alors Hemingway, Gérard de Cortan, c'est l'homme de la légende. C'est un écrivain légendaire. Et vous expliquez qu'il est le contraire de sa légende, peut-être pas le contraire, disons l'envers de sa légende, mais d'abord il faut parler de la légende. Et c'est celle d'un enfant né dans les faubourgs de Chicago, qui a reçu sa première canne à pêche quand il avait 3 ans, son premier calibre 20 à 11 ans, et qui va chercher toute sa vie le paradis perdu, des randonnées viriles avec son père sur les bords du lac, encore
c'est
peuplé par des
ça.
Indiens.
Voilà, et vous savez que lorsqu'on... En même temps que cette carabine qu'on lui offre, un membre de sa famille lui offre un violon. Et alors le petit Hemingway, le petit Ernest, préfère la carabine au violon. Et déjà à l'époque, il dresse des tableaux de chasse. Et il y a une anecdote assez amusante. La première chasse qu'il effectue avec cette petite carabine, il a 11 ans, il va tuer 11 petits oiseaux, enfin des colombes, je crois. Et donc son père lui dit, va les porter à la fermière qui est à 800 mètres de la maison pour qu'elle fasse des pâtés avec les oiseaux que tu as tués. Donc il emporte tout ça, il croise des enfants de la campagne et qui lui explique qu'il a tué ses oiseaux. Enfin, il est très fier de ça. Et vraiment, il ne le croit pas en disant « c'est ça, toi tu as tué, t'es tout ça tout seul ouais. ». Et donc, une lutte s'ensuit. Et il revient chez lui dépité, meurtri, parce qu'on on l'a pas cru. Et à partir de là, il va d'ailleurs vivre toute une vie qui va être fabriqué autour du mensonge. Sa mère en témoigne très très tôt. Il a affabulé, il racontait des histoires hallucinantes. À 5 ans, il raconte qu'il a arrêté un cheval fougueux dans les rues de Chicago, ce qui évidemment est absolument faux. Mais si je veux revenir à cette enfance, chérie, bénie, ça c'est vrai que c'est très important, parce que son père, en fait, est médecin. Et son père médecin s'occupe beaucoup des Indiens. Et la famille a acheté un chalet sur les bords du lac Michigan. Et il s'occupe des Indiens Ojibwa, son père. Le chalet est à Horton Bay, c'est le Wallahoon Lake. Et il va avec son père à la rencontre des Indiens. Il parle avec eux, il mange avec eux, et pendant le trajet, ils sont en canoë, ils traversent des forêts pieds nus, ils chassent, et pendant toute sa vie, il va essayer de retrouver ce paradis d'enfance, et notamment à Cuba, et ça, il ne le retrouvera jamais.
Alors, vous parlez de la carabine et du violon, ça résume bien Hemingway, la carabine et le violon, une espèce de finesse quand même extrême, et en même temps, une espèce de brutalité aussi.
Oui, mais alors, là encore, vous savez que sa mère était une cantatrice qui arrêtait de chanter lorsqu'elle est devenue maman, ils avaient quatre enfants, le père médecin, tous ces gens, avec la mort qui rôde autour, hein, c'est-à-dire que le grand-père va se suicider.
Alors on reviendra sur ce thème,
d'accord,
qui est un thème en effet récurrent.
Alors j'en parlerai après.
Dans la vie d'Hemingway. Mais c'est vrai que son père, alors on le présente souvent comme quelqu'un d'un peu inhibé, alors que sa mère, ça aurait été une femme dominatrice. Vous êtes d'accord avec ça?
Je ne suis pas tout à fait d'accord. D'abord, je pense qu'elle n'était pas si dominatrice que ça. Parce que le fait qu'elle arrête sa carrière de cantatrice prouve qu'elle n'était pas si dominatrice, sinon elle ne l'aurait pas arrêtée. Au contraire, elle se consacre à la vie de ses enfants et à la vie de son mari. Quant au mari, il est plutôt très présent. C'est un médecin reconnu. Il chasse, il pêche, il va dans la forêt, dans les montagnes. Enfin, c'est pas une petite chose fragile. Le papa Hemingway.
Alors, pour continuer ce portrait de Hemingway, on va sauter un petit peu quelques décennies pour écouter ce que disait un de ses amis, écrivain aussi, John Dos Passos, sur la susceptibilité d'Hemingway.
Ernest Hemingway et Pauline s'étaient achetés à Key West une vieille et jolie maison avec de hauts plafonds. Pauline était toujours aussi amusante. Gigi et la souris mexicaine étaient aussi mignons que possible. Mais mes rapports avec Ernest se firent moins faciles et les frottements étaient plus fréquents qu'autrefois. Peut-être était-ce autant ma faute que la sienne. Avec Pauline, nous mettions ça sur le compte des courtisans littéraires. Le célèbre écrivain, le grand pêcheur, le puissant chasseur africain. Nous faisions notre possible pour faire contrepoids par nos plaisanteries. On le chahutait pas mal, surtout les soirs où il souffrait de la gorge et allait se coucher avant le dîner. On lui apportait à boire et on dînait sur des plateaux dans sa chambre. On l'appelait le lit royal. J'arrivais à Key West avec Cathy par une belle journée et nous découvrîmes que quelque imbécile de sculpteur avait fait un buste d'Ernest. Un moulage en plâtre trônait dans le hall d'entrée. C'était un horrible buste. On aurait dit du savon. Quand nous le vîmes pour la première fois, nous éclatâmes d'un rire sonore. Il ne nous était pas venu à l'esprit qu'Ernest pût le prendre au sérieux. Cet hiver-là, je pris l'habitude, quand j'entrais, de viser avec mon panama pour le coiffer. Ernest me surprit un jour, me lança un regard mauvais et retira le panama perché sur la tête du buste. Il fut grognon pendant toute la journée. Personne ne dit rien. Mais après ça, les choses ne furent plus tout à fait ce qu'elles étaient avant.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Quel crédit on peut apporter à ce témoignage de Dos Passos, Gérard de Cortan, sur la personnalité d'Ernest Hemingway?
Je pense qu'il est assez juste. Bon, Dos Passos le connaissait très bien. C'est lui qui le fait venir à Key West en 28, hein, puisque Hemingway s'ennuie un peu à Paris. Il ne veut absolument pas retourner aux États-Unis parce qu'il considère que Bon, c'est un pays qui n'est plus le sien. Donc, il va à Key West sur la proposition de Spassos. Hemingway, comme toujours avec ses amis, s'entend de nouveau. Par exemple, Fitzgerald, la grande dispute. Alors, il estime que Fitzgerald n'est peut-être pas un très bon écrivain. Mais ça, à part Hemingway, je pense qu'il n'y a que lui qui est un grand écrivain. Mais surtout, ce qu'il reproche, le reproche fondamental à Fitzgerald, c'est qu'il ne supporte pas l'alcool. Il dit quelqu'un qui, au bout de 5 verres de whisky et sous, ça ne peut pas être un grand écrivain.
Alors, il y a, parmi les affabulations, ou pas d'ailleurs, vous allez nous le dire, que vous évoquiez tout à l'heure, il y a un certain nombre de faits légendaires. Alors, Hemingway aurait provoqué en duel un homme qui aurait insulté Ava Gardner. Vrai, faux?
Non, ça c'est faux, ça.
C'est faux. Il aurait sauvé Dos Passos des cornes d'un taureau andalou.
Ça c'est faux.
C'est faux. Il aurait libéré le Ritz à la tête d'une armée de mercenaires.
Non, ça c'est absolument faux, évidemment. En revanche, ce qui est vrai, c'est que la soirée qu'il a passée au Ritz, parce qu'il a quand même passé cette soirée au Ritz, c'est un événement au moment de l'arrivée des Américains à Paris, c'est qu'il a cassé le bidet de la chambre du Ritz à coups de mitraillette, et ça a inondé totalement l'étage. Ça, c'est vrai.
Mais il a libéré Lip, en revanche, non?
Oui.
Il a demandé immédiatement un litre de vin ou un bidon.
Mais vous savez, c'est un personnage étrange, parce que quand il arrive à Paris en tant que correspondant de guerre, il ne doit pas être armé, mais il est quand même armé sur sa fameuse Jeep. Enfin bon, c'est un des premiers arrivés à Paris. Il est dans le même temps décoré pour son action militaire, alors qu'il ne devrait pas l'être, et en même temps, on lui retire sa décoration, on le menace de prison parce qu'il n'avait pas droit d'être armé. Donc, il est en permanence dans cette espèce de double état, comme ça, de reconnaissance, de non-reconnaissance. Il est toujours un peu sur le fil du rasoir, mais ça, c'est merveilleux.
Oui. Alors, il y a une dernière anecdote quand même. Celle-là, je crois qu'elle est vraie. C'est l'affaire de la gifle donnée à Max Eastman, écrivain américain. Ça s'est passé à New York dans les bureaux du Scribner's. C'est une anecdote qui a fait beaucoup de bruit. Pouvez-nous la re-raconter, Gérard de Cortance?
C'est au sujet de la lutte avec le boxeur, c'est ça, non?
Quand il disait, Eastman, cessez de vous réfugier, Ernest Hemingway, derrière la toison artificielle qui orne votre poitrine, vous êtes démasqué depuis longtemps. Parce qu'il y a tout un truc sur le physique.
C'est ça, sur le physique et sur la force physique. Parce que la pratique d'Hemingway, de la boxe, ça, c'est vrai. C'est quelqu'un qui avait tendance à boxer assez facilement, mais qui adorait le noble art, enfin.
Mais c'est vrai qu'il est l'écrivain tel qu'on ne se le représente pas, c'est-à-dire l'écrivain qui est le contraire du rat de bibliothèque, entre guillemets, de l'image un petit peu 19e-iste.
Bien qu'il ait une très grande culture livresque.
Hein. Et une très grande bibliothèque aussi. Mais il a un peu renouvelé l'idée qu'on se faisait de l'écrivain quand même.
Oui, d'ailleurs, c'est quelqu'un, il est grand, il est puissant, il est fort. Il a des muscles, il se bat, c'est une force physique. Enfin, il y a un côté athlétique chez Hemingway. Et c'est vrai que ça ne correspond pas tellement à l'image qu'on a de l'écrivain qui sont... L'écrivain, c'est souvent... Au fond, l'écrivain, c'est plutôt... Enfin, je schématise un peu, hein, mais on imagine Rilke, enfin, ou voilà. Mais lui, pas du tout.
Ou Fitzgerald.
Enfin, ou Fitzgerald, voilà. Lui... Il lutte, il se bat. Quand il était à Cuba et qu'il va pêcher des marlins, c'est des poissons qui font pratiquement 500 kilos. Lui, il faut les ramener. Il y a une vraie puissance, mais si on revient à l'œuvre, cette puissance, on la retrouve dans l'écriture. C'est quelqu'un qui écrit en hurlant ses textes debout à haute voix. Avec sa machine à écrire, il est debout lorsqu'il écrit.
Alors, pour reprendre un peu la chronologie, donc il y a cette passion de la chasse, hein, pendant l'enfance. Il y a le lycée. Alors, le lycée, il est pas très bon en classe. Enfin, il est plutôt justement du genre à faire beaucoup de sport. Il le quitte d'ailleurs le lycée dès 1917 pour se lancer dans le journalisme, donc à 18 ans.
Hein,
il
Absolument.
Est né en 1899. Et très rapidement, l'envie le prend de partir, justement, tester sa virilité en Europe où, évidemment, la guerre a éclaté.
Oui, et là encore, c'est un geste vraiment volontaire, volontariste, puisque en fait, il s'y prend à 4 reprises et on ne veut pas le prendre parce que il a des problèmes de vision, il ne peut pas intégrer l'armée. Et en fait, il va intégrer un régiment d'ambulanciers, en fait. Il va être ambulancier.
Il ne sera jamais soldat. Hein. Il sera toujours journaliste, soit voilà. Dans la Croix-Rouge.
Et dans la Croix-Rouge.
Sur tous les conflits, finalement, qu'il
absolument,
va
c'est ça.
Mais connaître.
En tout cas, la guerre de 14-18, il l'a suivi, d'ailleurs, plutôt en Italie, hein, dans le Piave, et qui est une zone, d'ailleurs, de combat féroce. Il est blessé. Il a le temps d'envoyer un certain nombre d'articles et de sauver des gens. Enfin, son rôle d'ambulancier, il participe vraiment.
Il commence par le faire d'ailleurs avec une sorte de joie presque. Il est vraiment la fleur au fusil. Il explique qu'il s'amuse énormément à courir entre les bombes sur.
Oui, il y a des pages très 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 belles et émouvantes d'ailleurs sur la guerre et sur son plaisir réel à participer à à la guerre.
Alors ça n'a pas duré toujours. Extrait de L'adieu aux armes, son livre inspiré de son expérience au front.
J'essayais de respirer mais j'avais le souffle coupé et je me sentis sortir tout entier de moi-même, emporté loin, bien loin par le vent. Tout mon être s'enfuyait rapidement et je savais que j'étais mort et que c'était une erreur de croire qu'on mourait comme ça sans s'en apercevoir. Puis j'ai eu l'impression de flotter. Et au lieu de continuer dans mon vol, je me sentis retomber. Je respirais. J'étais revenu à moi. Le sol était défoncé et en face de moi, il y avait une poutre déchiquetée. Dans le chaos de ma tête, je crus entendre quelqu'un hurler. J'essayais de bouger, mais je ne pouvais pas bouger. J'entendais les détonations des mitrailleuses et la fusillade de l'autre côté et tout le long de la rivière. Dans une éblouissante clarté, je voyais les obus à étoiles monter, éclater, flotter dans l'air, tout blanc, tout cela en quelques minutes. Ensuite, près de moi, j'entendis quelqu'un crier « Mamma mia, oh mamma mia !» Je tirai, je me tordis et je finis par dégager mes jambes. Alors je pus me retourner et le toucher. C'était Pacini, et quand je le touchai, il hurla. Il avait les jambes tournées de mon côté, et dans les alternatives d'ombre et de lumière, je vis qu'elles étaient toutes deux broyées au-dessus des genoux. Une des jambes était sectionnée. L'autre ne tenait plus que par les tendons et un morceau du pantalon. Et le moignon se crispait et se tordait comme s'il était entièrement détaché. Pacini se mordit le bras et gémit. « Dio te salve Maria, Dio te salve Maria. Oh Jésus, achève-moi. Jésus-Christ, achève-moi. Assez, assez, assez. » Enfin, d'une voix étranglée, « Mamma mia. » Mamma mia. Et il resta tranquille, le bras dans la bouche, le moignon secoué de spasmes.
La compagnie des auteurs avec cet extrait lu par Guillaume Gallienne de L'adieu aux armes, livre publié 10 ans après les faits en 1929. Alors là, on ne danse plus du tout, Gérard de Cortance parmi les bombes, bien au contraire. Est-ce qu'on peut considérer que toute la vie d'Hemingway a été déterminée par cet événement de la blessure, mais plus largement du traumatisme de la Première Guerre mondiale?
Bien sûr, comme tout, vous savez, comme tous les écrivains qui ont participé à cette guerre. Enfin, tous ceux qui étaient présents. D'ailleurs, ce qu'on a appelé la génération perdue, hein, on peut parler de ça, notamment pour la génération des écrivains américains, c'était très clair. Il y avait ceux qui avaient participé à la guerre et ceux qui n'avaient pas participé à la guerre. Et là, il y a vraiment une coupure. Et pour Hemingway, il y a ceux qui ont participé et ceux qui n'ont pas participé à la guerre. Mmh. Et lui, a toute sa vie, a trimballé ce traumatisme effrayant, enfin, de cette guerre qui était une boucherie. Et ce qui est intéressant, dans l'extrait qu'on a entendu, il y a le côté journalistique, hein, c'est-à-dire il n'y a pas un mot de trop. C'est extraordinaire la façon dont il décrit ça. Il n'y a pas de pathos, il n'y a rien, mais on y est totalement.
C'est aussi parce qu'il le décrit toujours, comme pour ses autres romans, à grande distance de l'événement. Il faut toujours 10 ans, 20 ans, 30 ans. Paris est une fête, c'est quand même écrit 30 ans après passage à Paris.
On sait bien, et Paris est une fête, en plus, il y a une histoire tout à fait rocambolesque, puisqu'on retrouve un manuscrit qui a été... Souvent, quand il revient en 27 au Ritz, on retrouve un manuscrit qu'il avait perdu, et finalement, il le retravaille quand il a quitté Cuba et qu'il est à Ketchum en Idaho dans les années 60. Donc là, il y a toujours le temps qui fait son œuvre dans sa relation à l'écriture.
C'est jamais quelque... cette froideur peut-être aussi apparente, ce behaviorisme aussi dans son écriture, où il se contente finalement de décrire les choses.
Exactement, il y a toujours cette distance, comme si, alors je ne sais pas si elle est volontaire, mais en tout cas, j'ai l'impression que pour lui, elle était nécessaire. Il ne publie jamais un texte dans l'urgence. Il y a toujours un temps qui permet au texte de se décanter, au mot de se décanter en quelque sorte.
En tout cas, le traumatisme de la guerre, il est réel. On dit, légende ou pas, qu'il n'aurait pas éteint la lumière de retour aux États-Unis la nuit, dans sa chambre, pour dormir comme font les enfants, parce qu'il a eu de nouveau peur du noir en revenant de la guerre.
Vous savez, je crois que tous les gens, enfin c'est une banalité de dire ça, enfin, tous les gens qui ont vécu des guerres, que ce soit les guerres plus proches de nous, de nos générations, c'est-à-dire la guerre 14-18 ou la guerre 39-45, vous diront que c'est resté l'événement essentiel de leur vie, d'autant plus que ces gens avaient 20 ans quand ça se passait.
Donc,
quand il y a des événements aussi dramatiques, aussi terribles, qui vous impriment lorsque vous avez une vingtaine d'années, c'est évident que toute votre vie, ça vous accompagne.
Toujours est-il que quand il rentre aux États-Unis après ce traumatisme, l'Amérique lui semble un pays devenu invivable, et ça restera le cas tout au long de sa vie.
Oui, alors il est très partagé, c'est-à-dire par exemple, au moment de la prise de pouvoir par Fidel Castro à Cuba, il va défendre les États-Unis, c'est-à-dire qu'il va pas supporter. Il dit aux États-Unis, attention, l'Union soviétique est là, si vous ne faites pas ce qu'il faut, Cuba va devenir soviétique. Donc il devient quelque chose un peu pro-américain.
Il est profondément américain.
Il est profondément américain, mais en même temps, il ne supporte pas la... Alors, il faut se reporter dans le contexte de l'époque, hein, c'est-à-dire que là, on est dans les années 20, c'est bientôt l'Amérique de la prohibition. La religion a un poids qui est très très important. C'est une société qui est un peu bloquée. Ça, il ne supporte pas du tout. Et après, ce qu'il a vécu, la vie en Europe, c'est les années 20 aussi en Europe. C'est l'époque des Garçons, etc. Hein, donc c'est les années folles en Europe et en France. Il ne peut pas supporter l'idée de retourner aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'il va partir à Key West.
À Key West, et puis ensuite, donc, on le verra plus tard à Cuba. Mais il y a aussi d'autres pays. Bon, il y a l'Espagne, hein, on va
bien
en parler.
Sûr, oui.
L'Italie, et puis, évidemment, il y a Paris. C'est peut-être quand même la ville la plus importante pour Hemingway dans la construction de son être d'écrivain, parce qu'il est jeune quand même.
Parce qu'il est jeune et parce qu'il y a tout un groupe d'écrivains américains. Il y a autour de Gertrude Stein notamment, il y a Dos Passos, il y a Fitzgerald. Ils sont tous là, ils se connaissent, ils s'aiment, ils ne s'aiment pas, ils se haïssent. Enfin, en tout cas, ils se côtoient. Et d'ailleurs, la première à aller, on parle de l'Espagne, la première à aller en Espagne et à découvrir les corridas, c'est Gertrude Stein. Ouais. Et c'est à la suite de Gertrude Stein qu'il partira, lui, en assister à des corridas en Espagne.
Mais est-ce que c'est vraiment une fête, Paris, pour Hemingway à ce moment-là?
Oui, alors c'est une fête, mais je pense qu'aujourd'hui, on a du mal à comprendre cette fête-là. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Ils vivent dans des conditions, aujourd'hui, on trouverait ça tout à fait inacceptable. Mais c'est un pays, la France, l'Europe, une région à ce moment-là, où il se passe tellement de choses. Il y a une liberté absolument totale. Et c'est ça qui fascine un Américain.
Mais ça n'empêche pas la nostalgie pour le pays.
Paris est très beau et très solitaire à l'époque de Noël. Le jeune homme et sa compagne remontent la rue Bonaparte depuis le quai, dans l'ombre des hautes maisons, jusqu'à la rue Jacob, brillamment éclairée. Au premier étage d'un petit restaurant, le véritable restaurant de la Troisième République, qui possède deux salles, quatre tables minuscules et un chat, un dîner de Noël spécial est servi. « Ça ne ressemble guère à Noël, » dit la jeune fille. « Les RL me manquent, » dit le jeune homme. Il s'attaque au dîner spécial de Noël. La dinde est découpée suivant un mode géométrique particulier qui paraît comprendre un petit morceau de viande, une grosse part de cartilage et un gros os. « Te rappelles-tu la dinde au pays ?» demande la jeune fille. « Ne parle pas de cela, » dit le garçon. Il s'attaque aux pommes de terre qui sont trop grasses. « Que crois-tu qu'ils font au pays ?» dit la jeune fille. « Je ne sais pas, » dit le garçon. « Crois-tu que nous retournerons un jour au pays ?»« Je ne sais pas, » répond la jeune fille. « Crois-tu que nous deviendrons un jour des artistes reconnus ?» Le propriétaire entra avec le dessert et une petite bouteille de vin rouge. « J'avais oublié le vin, » dit-il en français. La jeune fille se mit à pleurer. « Je ne savais pas que Paris était ainsi, » dit-elle. « Je croyais que c'était gai et plein de lumière et beau. » Le garçon passa son bras autour d'elle. C'était au moins une chose qu'on pouvait faire dans un restaurant parisien.
Un extrait de Noël à Paris, un texte qui préfigure Paris est une fête, lui ici par Thierry Ancis. Qu'est-ce que vous en retenez, Gérard de Cortanze ?
Une grande joie de vivre, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Malgré les restaurants où on vous sert surtout des os et du cartilage de jour de Noël.
Mais bien sûr, parce que la vie est aussi ailleurs. La vie, notamment avec, pour Hemingway, c'est Adler Richardson. Il va se marier avec elle, il est amoureux. On est en 1921. Voilà, c'est ça aussi qui compte.
La dèche, je l'ai bien connue, mais jamais elle ne m'est apparue sous un aspect sordide. Je travaillais, j'avais une femme et un gosse, deux bouches à nourrir, écrira-t-il dans une lettre de 1965, dans laquelle il se souvient de son arrivée à Paris.
Si vous voulez, ce qui plaît dans cette époque-là, et dans quelqu'un comme Hemingway, c'est qu'au fond, on dit il n'y a pas de place pour le cynisme. Il n'est pas cynique, Hemingway. Il n'a pas le temps d'être cynique. Il faut qu'il fasse des choses. Il a ses enfants, son enfant, il a sa femme, il a son œuvre, il faut qu'il travaille, il faut qu'il trouve un endroit, un appartement où dormir. Donc il n'a pas le temps de se poser des questions qui ne sont peut-être pas les bonnes questions.
Et puis il faut qu'il voie Gertrude Stein.
Voilà.
Ça peut prendre du temps, c'est parfois compliqué. Même, il a acheté quelques tableaux aussi, parce qu'on sait que Gertrude Stein était une grande collectionneuse, amie notamment de Picasso. Lui, il a acheté des Miro, des Klee, des maçons. C'est important pour lui, les arts plastiques.
C'est très très important. Il a écrit de très beaux textes sur l'art. Et d'ailleurs, ses tableaux vont le suivre durant toute sa vie. Et on va les retrouver. On en parlera plus tard, on va les retrouver dans la Finca Viria, à La Havane. Donc ces tableaux l'ont accompagné.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'il aurait eu une vocation rentrée de peintre ? Parce que je crois qu'à la fin de sa vie, il a glissé que s'il pouvait tout reprendre à zéro, ce serait pour devenir peintre.
Oui, alors ça, je suis pas sûr que ça soit... Comment dire,
légende encore.
Oui, enfin, non, je pense qu'il a dit ça, mais je suis pas sûr qu'il le croyait vraiment. Mais en tout cas, dans son écriture, il y a un regard sur les choses, sur les gens. Il y a un côté pictural.
Oui. Alors, les États-Unis d'un côté, l'Europe de l'autre, et l'œuvre dans tout ça, est-ce qu'elle est plutôt européenne ? Il y a finalement peu de romans qui se passent aux États-Unis.
Ah, ça, vous dites là une chose absolument fondamentale, c'est-à-dire que c'est très intéressant, puisque la majorité la très très grande majorité des livres et des nouvelles et des textes d'Hemingway ont pour cadre l'Espagne, l'Europe, enfin l'Italie, la France, l'Afrique.
Il y a un seul roman américain, c'est En avoir ou pas, avec pour personnage principal un certain Harry Morgan, qui tire son nom d'un pirate gallois du XVIIe. Est-ce qu'il faut en conclure qu'il rejetait les États-Unis ?
Moi je pense, oui, bien sûr. Et alors il y a aussi ces nouvelles qui sont très très belles, autour de Nick Adams, qui sont ces nouvelles de sur son enfance.
Alors, très autobiographique, oui.
Très autobiographique, où là, évidemment, ça se passe elle se passe aux États-Unis.
Oui. Alors, Hemingway à Cuba, il faut dire que vous avez écrit aussi un livre sur ce sujet. On peut le trouver dans la collection Folio chez Gallimard. C'est un livre dans lequel vous racontez, Gérard de Cortance, la vie cubaine de Hemingway à partir d'avril 1932. Comment ça se passe? Alors, il arrive là-bas d'abord, il loue une chambre d'hôtel, à l'hôtel Ambos Mundus, oui, à La Havane, et là, il écrit pour Qui sonne le glas.
Exactement, c'est-à-dire, il termine Qui sonne le glas. Il est dans la chambre 525, alors qu'on peut encore visiter aujourd'hui, c'est une toute petite chambre, mais ce qui est passionnant, c'est que vous avez la vue sur les toits de La Havane, sur le port, sur la forteresse, et il y a déjà vous sentez toute la ville qui est là. C'est un tout petit hôtel. Hein.
Ouais. Alors Cuba, c'est l'endroit de l'écriture quand même. Finalement, c'est beaucoup là qu'il va écrire. Et y compris qu'il va écrire sur ses souvenirs partout dans le monde, comme ses souvenirs à Paris.
Bien sûr, mais tous ces grands livres, sauf les deux premiers, ont tous été écrits à Cuba. Et en réalité, Cuba, on l'a dit tout à l'heure qu'il arrivait à Key West en 28. Quelques années plus tard... il achète un bateau qui s'appelle le Pilar, qui va garder durant toute sa vie. Évidemment, quand il accostera définitivement à La Havane, enfin au port de Corrimar. Mais en réalité, on peut dire qu'il est à Cuba de 28 à 1960. Donc ça fait 32 ans. C'est beaucoup. Ouais. Et pour lui, Cuba, c'est une terre de bénédiction. Enfin, on peut comprendre que pour un Américain, comment dire, déraciné, c'est absolument sublimissime, Cuba, à l'époque.
Mais alors, il faut que vous nous racontiez un petit peu le décor, parce que on ne peut pas comprendre, dites-vous, les livres d'Hemingway, et encore une fois, même ceux qui n'ont rien à voir avec Cuba, sans avoir en tête cette Finca Viria et son environnement immédiat.
C'est ça. Alors, la Finca Viria, il y a La Havane. La Finca Viria, c'est à une quinzaine de kilomètres de La Havane. C'est une ancienne ferme espagnole qui a été restaurée. Alors, elle est au milieu des eucalyptus, des manguiers.
Du cri sans cesse des oiseaux.
Des oiseaux, des chats, des chiens.
Alors, il y en a combien? 64 chats?
Alors,
et chiens.
Il a eu en tout 54 chiens et chats. Ouais. Un certain nombre sont enterrés d'ailleurs à la Finca Viria. Et c'est une sorte de paradis sur terre. Alors il aura vécu avec deux femmes là-bas, c'est-à-dire Martha Gellhorn et Mary Welsh. Et Mary Welsh va lui faire construire une tour pour qu'il écrive.
Mais il va pas y aller. C'est surtout
non,
les chats qui vont y aller.
Ça sera une tour pour les chats. Et aussi pour quelques aventures amoureuses qu'il vivra au dernier étage de la tour. Mais c'est son paradis.
Et puis il y a la chaleur, il n'y a pas d'air conditionné dans cette maison. Et
alors,
quand il écrit...
Si, c'est-à-dire qu'il y a l'air conditionné, parce que toujours ces femmes sont là quand même très attentives autour du maître Hemingway, donc on lui a offert un gros appareil pour l'air conditionné, mais il estime que ça fait du bruit, que ça l'empêche d'écrire, donc il met ça. Alors il faut imaginer, il se réveille à 5h du matin... Il fait quelques tours du jardin, il y a la piscine, il boit des whisky et il commence à travailler.
Et il travaille d'une façon aussi là très physique. Et il explique qu'à un moment donné, il faut s'arrêter parce que il est suant à grosses gouttes. Et on pense que c'est une métaphore, mais en réalité, non, il sue réellement à grosses gouttes.
Ah non, si vous êtes allé à Cuba à certaines périodes où il fait alors vraiment une chaleur de fou sans climatiseur, et si vous buvez beaucoup d'alcool et si vous travaillez de façon intensive debout à écrire un livre, je pense que vous transpirez beaucoup. C'est pas du tout, ce n'est pas une métaphore.
On transpire d'autant plus quand la mafia est présente. Il y a la dictature, de Machado,
Batista,
puis celle de Batista. Et puis il y a le FBI qui ouvre les courriers parce que Hemingway est surveillé.
Alors ça c'est vrai. Alors on a raconté beaucoup de choses là-dessus. On a dit non, mais ce sont des fantasmes, c'est pas vrai. Enfin, quand on a ouvert les archives du FBI il y a quelques années, il y a un certain nombre de livres qui ont été publiés sur le sujet maintenant, on sait bien qu'il y a beaucoup d'écrivains américains et notamment ceux qui étaient liés d'une façon ou d'une autre, disons, à la gauche américaine, qui ont eu un rôle plus ou moins important pendant la guerre d'Espagne. Et ben oui, ces gens étaient surveillés par le Hemingway, par le FBI, et Hemingway était l'un d'entre eux. Ça, c'est absolument certain. Et c'est pas, vous savez, ce film Le Caire, Nid d'espions, c'est vraiment La Havane, Nid d'espions. C'est-à-dire que les cabarets et les cafés et les restaurants, c'est bourré de d'espions du monde entier, de types de la mafia, parce que toute la mafia. Et là, tous les grands casinos, les boîtes de nuit. Il y a un guide que je me suis procuré d'ailleurs, qui est un guide destiné aux touristes américains qui vont à La Havane, dans les années 20-30. On considère que Cuba est le prolongement géographique des États-Unis. Mmh. Et quand vous voyez les guides de l'époque, le nombre de garages, de banques, de commerces qui appartiennent, ça appartient aux États-Unis.
Et Castro, alors, est-ce qu'on peut dire qu'il a été pro-castriste ou est-ce que c'est déjà allé un peu trop loin?
Non, c'est allé trop loin. Alors, c'est vrai que le régime castriste, évidemment, a récupéré... Même encore aujourd'hui, ils ont totalement récupéré Castro. Quand vous allez à Cuba, il y a des tonnes de livres. Alors, certains sont absolument passionnants, qui ont été écrits sur Hemingway vivant à Cuba. Mais non, il n'est pas pro-castriste. Cette rumeur vient de la chose suivante. Il fait un voyage aux États-Unis au moment où Castro prend le pouvoir. Quand il revient à Cuba, le journaliste tout lui dit « Qu'est-ce que vous pensez ?» et lui dit « C'est une excellente chose pour le peuple cubain. » Ça ne veut pas dire qu'il pense que Castro est une excellente chose. Il pense que la chute du dictateur est une excellente chose. Et donc, de fait, on en dit il est pro-castriste. Mais bon, il a aussi participé à un concours de pêche dont il a lui-même fixé les règles. Alors ça, c'est très important, parce que les règles de la pêche au gros... À Cuba, il y a un livre de 160 pages écrit par Hemingway, mais il connaît absolument tout de cette pêche. Et c'est lui qui remet la coupe à Fidel Castro. On suppose d'ailleurs que Fidel Castro a triché et que le Merlin en question, c'est pas lui qui l'a remonté, mais c'est quelqu'un d'autre.
Ben c'est sûr que Hemingway s'y connaissait en pêche au gros et il s'y connaissait aussi en corrida.
Le premier matador prit la corne au travers de la main droite et il sortit sous les huées. Le second matador glissa et le taureau lui transperça le ventre. Le matador s'accrocha à la corne d'une main tandis que l'autre se pressait contre la blessure. Puis le taureau le projeta, boum, contre la barrière et la corne sortit. Le matador tomba dans le sable, puis il se releva comme pris d'une ivresse folle et se débattit contre les hommes qui l'emportaient, hurlant qu'on lui rende son épée, mais il s'évanouit bientôt. Le gosse entra dans l'arène et il dut tuer 5 taureaux, car il n'y a jamais plus de 3 matadors, et au dernier taureau, il était si fatigué qu'il n'arrivait pas à enfoncer l'épée. Il pouvait à peine lever le bras. Il essaya 5 fois, mais la foule resta calme, car c'était un bon taureau, et cela semblait être lui ou le taureau, puis il finit par réussir. Il s'assit par terre et se mit à vomir. On le recouvrit d'une cape tandis que la foule hurlait des vivas et lançait des choses dans la rue.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Il faut s'arrêter, Gérard de Cortance, sur la véritable passion de Hemingway pour la corrida. Il paraît qu'il était respecté par les aficionados espagnols comme quelqu'un... qui s'y connaissait autant que sur ce rituel de la corrida.
Ah oui, ça c'est absolument vrai. C'est-à-dire que penser qu'il y a des gens qui vous diront ça, oui, enfin c'était un touriste, il n'y connaissait rien, c'est un Américain qui parle de... Non, d'ailleurs, là encore, il a décrit des corridas et les textes, encore aujourd'hui, dans le monde de la corrida en Espagne, on considère les textes d'Hemingway comme des textes
qu'il faut référencer. On attendait son avis sur telle ou telle corrida.
Oui, vraiment. Et d'ailleurs, quand vous, pour ceux qui aiment la corrida et ceux qui lisent ces textes ou ces reportages, hein, il n'a pas écrit que des... La corrida n'est pas dans les livres d'Hemingway que dans ses romans, mais aussi il y a des reportages. C'est d'une précision, il y a une connaissance totale de son sujet.
Alors c'est évidemment un rituel cruel, c'est une tragédie en fait qui se joue sous ses yeux. C'est la tragédie qui l'intéresse dans la corrida.
Oui, parce que c'est quelqu'un qui est entouré par la mort. On parlait de la guerre, donc il a vécu la guerre de près, donc la mort, il l'a vue aussi de près. Mais il ne faut pas oublier que son grand-père s'est suicidé, son père s'est suicidé, et plus tard, une de ses sœurs se suicidera, et son frère se suicidera aussi.
On peut dire qu'il se suicidera
également. Et lui
également.
Se suicide, donc c'est quelque chose qui est présent, et c'est ça qui rend son œuvre d'ailleurs passionnante et tragique, c'est cette présence permanente de la mort.
Et pourtant, il avait dit, 3 ans avant de se suicider, « Sans doute est-ce le droit de chacun d'entre nous. Pourtant, le suicide m'apparaît surtout comme le dernier recours d'un égoïste indifférent à son entourage. »
Vous savez, quand son grand-père s'est suicidé, enfin, c'est-à-dire, non, son grand-père a fait une tentative de suicide lorsque Hemingway avait 6 ans. C'est en 1905, il avait 6 ans. Le père d'Hemingway, qui savait que le grand-père ferait une tentative de suicide, avait retiré les balles du pistolet. Donc, quand le grand-père a fait sa tentative de suicide, les balles n'étaient plus dans le barillet. Il est mort quelques mois plus tard de sa belle mort. Mais à ce moment précis, le petit enfant a dit à son père que c'est un imbécile, qu'il n'aurait pas dû retirer les balles. Donc il avait une sorte de connaissance de ça, enfin de ce rapport au tragique.
Et d'ambivalence aussi.
Et d'ambivalence, bien sûr.
Mais alors pour revenir à la corrida, spectacle de la violence, spectacle de l'héroïsme aussi, du matador, et puis il y a une certaine arrogance face à la mort, qui rejoint un petit peu l'anecdote que vous citez.
Oui, mais c'est le côté torero, trompe la mort, enfin il y a une arrogance chez lui, mais une arrogance en fait qui est là. Enfin, c'est une banalité, mais je pense qu'il y a beaucoup de... Vous savez, on dit souvent, les Argentins disent que les tangos, qui ont les paroles les plus banales, disent souvent la vérité. Donc, en fait, il y a ça chez Hemingway aussi. Les choses les plus banales, en fait, sont les plus réelles, les plus tragiques.
Il y a la corrida, mais c'est pas le seul lien qui le tient à l'Espagne. Le pays, dans son entier, lui semble une sorte de modèle qu'il pourrait suivre, notamment par rapport à l'Amérique de la prohibition, du puritanisme dont vous parliez tout à l'heure.
Oui, alors il est profondément amoureux de l'Espagne. Alors c'est étonnant parce qu'il est aussi profondément amoureux de l'Italie, et c'est très très rare. C'est très très rare chez les intellectuels, un amour qui serait double. C'est-à-dire d'aimer autant l'Italie que l'Espagne. Dans l'Espagne, mais il aime ce côté aride, tragique, luxuriant. Il aime beaucoup la poésie de Lorca. On n'en parle pas beaucoup de ça, mais c'est toute la littérature espagnole qu'il connaît très bien, la musique qu'il connaît aussi très très bien, et puis un art de vivre très très particulier qui correspond à sa façon d'être profonde, c'est-à-dire cette espèce d'engagement permanent, une forme de violence aussi.
Mais c'est vrai qu'on a plus naturellement envie de l'identifier à l'Espagne qu'à l'Italie. Et pourtant, il a écrit son roman italien aussi, Au-delà du fleuve et sous les arbres. Qu'est-ce qu'il rattache à ce pays?
Alors, il a une histoire d'amour, évidemment, avec une comtesse italienne, beaucoup plus jeune, 18 ans. Que lui, qui finira d'ailleurs par se suicider. Oui, il est vraiment entouré quand même de la mort est très présente chez lui. Et puis, je pense que son amour pour l'Italie... Alors, il y a un amour qui passe aussi par l'histoire de l'art, qu'il connaît très, très très bien. cette espèce de musée. Alors plutôt l'Italie de la Renaissance que l'Italie romaine en quelque sorte. Les paysages, la douceur des paysages, de certains paysages italiens qu'il aime beaucoup et qu'il décrit d'ailleurs très très bien. Et puis évidemment ce contact particulier qu'il a avec l'Italie, qui est son premier contact, c'est-à-dire avec la guerre.
Et puis le souvenir de cette femme qu'il a aimée dans l'hôpital où il a été soigné. Alors, qu'il a quand même laissé tomber. Et
c'était la fameuse une grande Agnès, blessure espèce de fantasme de l'infirmière dont on tombe amoureux. Voilà.
Mais qui va lui préférer finalement un riche Italien.
Bien sûr, voilà.
L'Afrique aussi, c'est un autre lieu de Hemingway. Alors il y est allé évidemment pour... chasser, comme on faisait, enfin on le fait
oui,
sans doute toujours.
À l'époque, on chassait. Oui. Oui. Voilà.
C'est la même chose que la corrida, c'est le même rapport, ça.
Alors, j'ajouterais autre chose, c'est-à-dire que oui, il y a la chasse. Alors, il faut replacer ça dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire aujourd'hui, ça nous semble tout à fait inadmissible d'aller chercher le rhinocéros ou le lion en Afrique. À l'époque, on trouvait ça normal. Donc, ça en fait pas. Ça ne fait pas d'Hemingway une crapule. Enfin, je veux dire, c'est dans l'époque, ça se passait comme ça. Bien. Donc lui, il aime la chasse. On sait pourquoi aussi. Il y a toute l'enfance qui est là. C'est vraiment, il est né avec ça. Mais il y a aussi un autre aspect dont on parle un peu moins. C'est ça lui permet de fuir La Havane parce que à La Havane, enfin, ou à la Finca Veria, il ne peut plus écrire. Je vais vous raconter une anecdote qui était assez amusante. Il y a une école d'officiers, de pilotes américains aux États-Unis, et celui qui termine le premier de sa promotion est invité à passer une journée dans la Finca Veria d'Hemingway. Hemingway n'est pas du tout au courant. Et il se retrouve un matin, nez à nez, avec le futur officier pilote et une partie de ses copains dans son jardin. Donc, il y a une sorte de fuite. Donc, il fuit en Afrique pour être tranquille et pour continuer à travailler.
Et on a dit qu'il était un petit peu en panne d'inspiration à la fin de sa vie aussi, que ça expliquerait en partie d'ailleurs son suicide. Et il était aussi harcelé après son Nobel, comme vous venez de l'expliquer.
Alors c'est étonnant parce qu'il a passé toute sa vie comme ça, avoir des moments de crise, de non-écriture. Mais vous savez, au fond, pourquoi est-ce qu'un écrivain devrait écrire du début à la fin de sa vie de façon régulière? C'est pas un fonctionnaire de l'écriture.
Parce qu'il avait mis, en l'occurrence, lui, toute sa vie entre les mains de la littérature.
Mais peut-être que le jeu de l'écriture passe aussi par ces moments de blanc, enfin de non-écriture, qui sont peut-être aussi des moments d'écriture pour un livre futur. Vous savez, quand il a publié le Vieil homme et la mer, on estimait que c'était un écrivain absolument fini, que ça marchait plus, qu'il n'écrirait plus jamais rien. Et tout à coup, il se met à écrire ce livre très très court, que d'aucuns considèrent comme son meilleur livre, et qui lui vaut le prix Pulitzer, d'ailleurs, en 1953, et l'année suivante, le prix Nobel.
Alors, quand il meurt, dans les conditions qu'on a donc racontées, il n'aura pas droit à une messe parce qu'il s'est suicidé. En revanche, sa famille, donc sa femme et ses trois fils, vont demander que soit organisé au bord de sa tombe un service tout de même funéraire et catholique. Quel était, Gérard de Cortance, son rapport à la religion?
Alors, c'est très complexe parce qu'en fait, il se disait catholique. Il ne pratiquait pas, mais régulièrement dans les interviews, dans les lettres, parce qu'il y a toute une correspondance qui est absolument magnifique, il se pose les questions de son rapport à la religion. Et d'ailleurs, lorsqu'il est enterré, donc sa dernière femme, Mary Welsh, demande qu'on...
Il en a eu quatre.
Voilà, demande qu'on lise un passage de l'Ecclésiaste, dont il lui parlait souvent, et le passage est le suivant. Une génération passe, une génération vient, et la terre subsiste toujours.
Quel est votre livre préféré? On va en parler des livres toute cette semaine dans la compagnie.
Alors moi
des
j'ai
auteurs.
Deux livres, ça fait peut-être partie des livres les moins connus d'Hemingway. En fait, il y a un livre qui s'appelle En ligne, et c'est un recueil d'articles. C'est les recueils d'articles. C'est sorti en folio. Donc ça rassemble ces articles en tant que correspondant de guerre, mais ces articles aussi sur la pêche à Cuba, sur la corrida. Et je trouve ça absolument magnifique. Et il y a un roman inachevé qui se passe à Cuba, qui s'appelle En ligne. Et qui
ça s'appelle En ligne.
Il à la dérive. Pardon. Il à la dérive, c'est inachevé. Et pour moi, c'est un de ses plus, beaux livres. Et
voilà, qui donne envie de lire. Merci beaucoup, Gérard de Cortanze. On peut lire les livres d'Hemingway, on peut aussi lire les vôtres. Le roman de Ernest Hemingway, c'est aux éditions du Rocher. Également Hemingway à Cuba, disponible dans la collection Folio chez Gallimard. Et puis votre dernier roman, hein, n'a rien à voir, il s'appelle Femme qui court et il est consacré à la sportive Violette Maurice, qui fut aussi une grande amoureuse et contemporaine de Colette. Il vient de paraître chez Albin Michel. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier et Jacques Hubert. Demain, nous parlerons du thème de la limite et de sa transgression chez Hemingway. Ce sera avec Redouane Aboudaad. Mais tout de suite, c'est le retour de la poésie et c'est avec Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Que dire ? Que ce n'est pas que le nom d'une fameuse académie, Charles Cros, un inventeur génial, un poète méconnu, un poète maudit, dit-on. Mais non, poète par avance oublié, dit Hubert Juin dans sa préface à propos de la publication inaperçue du coffret de Chantal en 1873, le 1er avril. Oui, bien sûr. Les ravissements, les instants où je savais tenir l'univers en ma main royale ont été bien courts. Et bien rare. Sonner, ça c'est dans le collier de griffes. Parution posthume en 1908. C'était un vrai petit voyou. Elle venait on ne sait d'où. Moi je l'aimais comme une bête. Oh la jeunesse, quelle fête. Un baiser derrière son cou la fit rire et me rendit fou. Cinq fois un bouton d'or pâquerette surveillait notre tête à tête. La clairière est comme un salon, tout doré. Les jaunes abeilles vont aux fleurs qui leur sont pareilles. Moi seul, féroce et noir frelon, qui baise ses lèvres vermeilles, je fais tache en ce fouillis blond. Charles Cros, donc, originaire d'une famille de La Grasse, dans l'Aude. La Grasse, chère aux éditions Verdier qui fêtent leurs 40 ans et où se déroule le fameux banquet du livre auquel nous participerons cet été. Et né à Fabrezan, dans l'Aude, pour être exact, le 1er octobre 1842, il est mort à Paris le 9 août 88. C'est un poète et inventeur français. Il publie ses premiers poèmes dans le Parnasse contemporain, fréquente les cercles et cafés littéraires de la bohème de l'époque, quand même, après la Commune, le cercle des poètes zutistes qu'il a créé, les vilains bonshommes, les hydropathes, etc. En attendant commentaire, aujourd'hui je veux être très gai, flon flon, lariradon, gay, 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 la rira d'ondé. C'est le poème Brave homme. Je ne fais pas beaucoup d'affaires, le verre cassé n'est pas demandé, flon, flon, etc. Ma pauvre femme non plus ne gagne guère, il lui faut trop de litres dans le gésier, flon, flon, etc. Notons que c'est Charles Cros qui écrit flon, flon, etc. Le poète allumé, grand consommateur d'absinthe, est aussi un génial inventeur, on lui doit les premières recherches sur le gramophone. Heure sereine, un poème extrait du collier de griffes. J'ai pénétré bien des mystères dont les humains sont ébahis, grimoire de tous les pays, êtres et lois élémentaires. Les mots morts, les nombres austères laissaient mes espoirs engourdis, l'amour m'ouvrit ses paradis et l'étreinte de ses panthères. Le pouvoir magique à mes mains se dérobe encore au jasmin. Les chardons ont mêlé leur haine. Je n'en pleure pas car le beau que je rêve avant le tombeau m'aura fait des heures sereines. Mais contre qui cogner mon verre, quoi que l'est, c'est une société, flon flon, etc. Je la garde, j'ai du temps à faire. Elle soignera ma vétusté, flon flon, la ridondère, gai gai, la riradondé.
Merci Jacques Bonafé pour sa lecture de texte de Charles Cros.